Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et parmi les raisons qui ont poussé les Anglais à voter en faveur du Brexit, il y a la volonté de préserver une identité qui serait mise à mal par l'Europe. C'est en tout cas cette motivation qui a été invoquée, aussi souvent critiquée, notamment chez nous en France. L'identité est-elle nécessairement haïssable? Un pays, une collectivité, a-t-elle le droit de vouloir préserver son identité? Le philosophe Vincent Descombes a beaucoup réfléchi à cette question. C'est pourquoi il est avec nous ce matin. Bonjour Vincent Descombes.
Bonjour.
Vous êtes en compagnie d'un autre philosophe, Jacques Rancière. Et tout d'abord, j'aimerais vous poser la même question qu'à Jacques Rancière. Si vous étiez anglais, qu'auriez-vous voté jeudi dernier, au référendum sur le Brexit?
Si j'étais anglais ou écossais ou gallois ou si j'étais britannique, eh bien je ne suis pas britannique, n'est-ce pas? C'est une décision des Britanniques. Donc nous pouvons considérer leurs raisons, mais nous ne votons pas. Et c'était l'enjeu de leur référendum. Donc est-ce que je suis scandalisé? Pas du tout. Si vous m'interrogez sur les raisons des uns et des autres, il apparaît qu'elles sont très confuses, variées, donc là il y a tout un débat. Mais l'idée d'un référendum était-elle illégitime et est-ce quelque chose de scandaleux? Ben, pas du tout.
Plus généralement, avez-vous l'impression que la communauté européenne, l'Europe telle qu'on l'a construite aujourd'hui, peine à conférer une identité commune au peuple qui la compose? Vincent Descombes.
Alors, votre question suppose qu'on sache ce qu'on veut dire par identité. Mais l'expérience montre que ce mot est utilisé sans qu'on en perçoive les implications. Alors, est-ce que l'Europe procure une identité? Une identité à qui? Une identité de quoi? Vous posez la question de l'identité européenne, mais d'abord, il faudrait, n'est-ce pas, il n'y a d'identité de l'Europe que s'il y a une Europe. Et donc, nous devons définir de quelle entité nous parlons, l'Europe, avant de savoir quelle serait son identité. La vraie question, c'est est-ce que l'identité de l'Europe, c'est une identité politique? Est-ce que c'est une identité historique? Est-ce que c'est une identité de culture, de tradition, de civilisation? Et alors, ce qui est très frappant, c'est que chaque fois que ces questions ont émergé dans les 10 ou 20 dernières années, elles ont été écartées. Il fallait surtout pas que l'identité n'est pas politique. Si elle était politique, il y aurait une frontière. Il ne fallait pas qu'il y ait une frontière. J'ai d'ailleurs été très frappé par une déclaration de Michel Rocard, grand fédéraliste européen, qui a dit « J'ai été fédéraliste, mais je ne le suis plus parce que je constate que les États qui font partie de l'Europe ne veulent surtout pas dire où est la frontière. Car s'il y avait une frontière, il faudrait la défendre. Et s'il fallait la défendre, il faudrait avoir une défense, et il n'en est pas question. » Donc, s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de politique extérieure, et donc il manque de quoi parler d'une identité politique. Tout le monde accorde qu'il y a une identité de civilisation, mais il ne faut pas le dire, parce que si on le dit, on écarte des candidats, n'est-ce pas? Il y a un moment où il était question que la Turquie entre dans l'Europe, et donc il fallait ne rien dire qui puisse offenser l'intégration de la Turquie, ou peut-être même du Maghreb, ou de, je ne sais pas. C'est du côté des instances européennes, de l'Union européenne telle qu'elle est maintenant, que on a vu le rejet de toute idée de procurer une identité. Donc il ne faut pas s'étonner si les gens ne s'identifient pas à quelque chose qui est défini comme indéfinissable et comme devant l'être, comme étant précisément comme ayant cette supériorité sur tout ce qui a existé, d'être indéfinissable. La chronique que j'ai entendue tout à l'heure sur cette
de Brice Couturier.
Non, parce que là j'étais dans le taxi, donc j'ai raté votre. Mais j'ai entendu une chronique où quelqu'un disait. Non, c'était pas la chronique, c'était dans une interview là dans les nouvelles qu'un homme politique dit. Mais devant les empires qui composent le monde aujourd'hui, il nous faut l'Union européenne. Et donc visiblement, il voulait que l'Union européenne soit un empire. Alors c'est un problème pour des démocraties de composer un empire. Bien entendu, il ne disait pas « je veux un empire », mais c'est ce qu'il aurait dû dire s'il était conséquent.
Si, c'était moi, je l'assume. Oui, c'était moi. Écoutez, les autres puissances à l'échelle du monde, les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, sont des empires. Nos petites nations européennes sont minuscules, elles ne comptent guère à l'échelle du monde. Et regardez un fait très pertinent qui s'est produit ce week-end. Toutes les monnaies ont chuté, la livre sterling, mais aussi l'euro face au dollar. Il y a une monnaie qui résiste très très bien. Devinez laquelle ? C'est le rouble, parce que les marchés ont compris, eux, que le Brexit faisait le jeu de Poutine. C'est lui le grand vainqueur de ces élections britanniques.
Jacques Rancière, sur la question des identités, sur le fait de dire, finalement, cette Europe, elle a échoué, notamment parce qu'elle ne procure pas une sorte de vivre ensemble, une identité collective au peuple qui la compose.
Je ne suis pas absolument convaincu que pour vivre, il va y avoir une identité. C'est ça un petit peu le problème. Qu'est-ce qu'on entend par identité? Ou est-ce que c'est aujourd'hui plus qu'une notion réactive? De toute façon, il me semble que là où il y a une vie, il y a une vie. Il y a même un usage des identités là où des identités sont en conflit. Enfin bon, si on prend l'histoire de France pendant très longtemps, en gros, c'était est-ce que les Français sont des descendants des Francs ou des Gaulois, par exemple. Bon, après, disons, au fond, on peut dire que la question de l'identité française s'est définie par rapport à la Révolution. Finalement, si le peuple français c'était le peuple formé par la royauté ou le peuple formé par la révolution. Donc je crois que fondamentalement la question des identités a de l'intérêt, pour autant qu'elle fournit en quelque sorte des moyens aussi de sortir d'une identité ou d'opposer une identité à une autre, ou de construire une sorte d'identité. Donc fondamentalement oui, je crois que pour autant que le concept d'identité est une utilité, et j'en suis pas convaincu, en tout cas cette identité, elle est celle qui est produite par une série d'actes qu'on fait en commun. Donc je crois qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas poser la question à l'envers, c'est-à-dire il y a une identité, donc on est ensemble. Ensemble, on construit des identités partielles qui sont souvent faites par la destruction d'identité qui était donnée.
Et si on remplaçait le terme d'identité par le terme de valeur, valeur européenne, ça vous irait, Jacques Rancière ?
J'aime pas beaucoup les valeurs. En général, les valeurs, c'est toujours suspect. D'ailleurs, on voit bien comment les valeurs, c'est intervenu dans la ce qu'on appelle la politique, en tout cas sur la scène politique officielle, comme une manière de créer des différenciations, là où, en gros, tous les partis, de gouvernement adoptent le même credo économique. Il faut se distinguer. Alors, on se distingue par les valeurs. Distinguer par les valeurs, ça veut dire, se distinguer sur la question de l'avortement, sur la question du mariage homosexuel, et ainsi de suite.
Mais je me souviens d'un texte de Jacques Rancière qui parlait, par exemple, des droits de l'homme et qui, finalement, fustigeait ceux qui critiquaient les droits de l'homme.
Oui, non, mais
ça, c'est une valeur.
Mais encore une fois, c'est pas une valeur. C'est une valeur pour autant qu'on en fait quelque chose. C'est ce que je disais un petit peu. Je vais repasser la parole à Vincent Descombes. Mais fondamentalement, que justement, il n'y a pas à choisir entre ceux qui disent c'est une valeur peut-être absolue, et puis ceux qui disent en face, mais regardez, quand les gens n'ont pas les moyens, ça vaut rien. Effectivement, les droits de l'homme sont ce qu'on fait avec. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont, effectivement, des groupes en lutte ont fait quelque chose des droits de l'homme, ils ont fait exister. C'est ça, je crois, qui est important. C'est pas une question de valeur, c'est une question finalement de ce qu'on peut faire avec des mots, ce qu'on peut faire avec des idées.
Je me souviens, Vincent Descombes, que vous aviez évoqué les valeurs européennes et que vous aviez dit à quel point celles-ci étaient problématiques. C'était une conférence à Nantes.
Mais écoutez, les valeurs, personne ne va parler contre les valeurs, les droits de l'homme. Mais quand on...
Non, mais on peut déjà essayer de les définir.
Non, mais quand on prétend que ce sont les valeurs qui vont donner une identité, ces valeurs sont universelles. Ces valeurs sont universelles, elles ne distinguent pas, elles devraient l'être, n'est-ce pas ? Nous déplorons que tout le monde n'adhère pas à ces valeurs, et par conséquent, on rejoint la question de l'Empire. Ce qui distingue l'Empire des démocraties modernes, qui sont des démocraties nationales, c'est que l'Empire n'a pas de limite. L'Empire est destiné à s'élargir, l'Empire réclame une souveraineté sur l'ensemble du globe. Et l'Europe n'a pas l'air d'une puissance très menaçante, mais dans le concept même, il y a quelque chose de problématique qui est que ne définissent pas de limites, de frontières, l'Europe est destinée à s'élargir au monde entier. Mmh. Et le problème, c'est que la forme impériale d'une communauté politique ne convient pas à la démocratie. La démocratie doit se définir par le fait que nous ne réglons pas les problèmes des autres et les autres ne règlent pas nos problèmes. C'est à chacun d'être responsable des problèmes qui lui sont propres. Et donc, le problème de l'identité, il est posé. Regardez en Angleterre, qu'est-ce qu'on observe, en Grande-Bretagne, devrais-je dire.
N'est-ce pas ? Bah, c'est fini la Grande-Bretagne. Il faut parler
peut-être,
de l'Angleterre
peut-être,
maintenant.
Peut-être c'est fini, mais justement, voilà le problème. J'ai été frappé par cette pétition farce là, de Londres qui prendrait son indépendance, deviendrait une sorte de Singapour, n'est-ce pas, de l'autre côté. Alors, ça montre bien le problème démocratique, n'est-ce pas ? Y a-t-il... Alors, on aurait pu avoir une autre règle du jeu avant et dire un référendum de cette gravité doit avoir des règles telles qu'il faut un tel nombre de... Bon. Mais la règle était fixée avant et elle est remise en cause après. Donc, ce qui est en cause, c'est la Grande-Bretagne en tant que communauté politique. Si les gens disent « mais vous avez voté, mais ça ne me regarde pas », ça veut dire que le « nous » britannique est remis en cause. Et donc, vous voyez... Il ne faut pas dire « y a-t-il une identité britannique ?» Bien entendu, il y en a une, mais y a-t-il une identité politique ? Et cette identité politique est-elle une identité compatible avec la démocratie ? Voilà comment moi je pose le problème.
Et ça, c'est une vision que l'on retrouve chez vous aussi, Jacques Rancière, lorsque vous dites que la démocratie est souvent critiquée au nom de l'individualisme qu'elle procure chez les individus et qui rend l'exercice de la démocratie pratiquement impossible.
Oui, enfin ça c'est un peu la doctrine officielle. La doctrine officielle, en quelque sorte, joue toujours sur cette espèce de doublé, la démocratie comme une forme de gouvernement, et puis de notre côté, la démocratie comme un état de société. Bon, c'est quelque chose qui a été donc lancé par Tocqueville donc au XIXe siècle, mais bon, qui a été, disons, un peu repris, défiguré, transformé finalement en une espèce de discours, bon, assez banal sur l'individu démocratique, qu'on a vu se répandre dans les 20 dernières années de façon absolument exponentielle. Bon, en gros, bon, c'est toujours un petit peu la même chose, à savoir les gouvernements disent la démocratie c'est la forme qui nous légitime, mais malheureusement la démocratie produit des démocrates, les démocrates c'est des individus qui s'occupent de leur plaisir. Bon, ça Platon le disait déjà, là encore on n'invente pas beaucoup, disons, malgré tout dans le monde officiel on prend les restes des philosophes et généralement on les banalise encore. Fondamentalement je pense qu'il faut se sortir de ça. C'est-à-dire que précisément dire de toute façon la démocratie c'est pas un mode de gouvernement, en un sens c'est pas un art de gouverner. Donc je pense qu'il faut pas mettre au compte de la démocratie les problèmes qui sont ceux de nos gouvernants, quoi, et de leurs difficultés pour savoir comment se légitimer à la fois avec un peuple souverain qui les élit et puis par ailleurs avec un peuple crétin auquel il faut qu'ils arrivent à imposer leur raison.
Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Descombes?
Non, je suis pas d'accord. La démocratie est régime politique de gouvernement de la société qui a ses contradictions propres. Ça, c'est là-dessus nous sommes d'accord, mais je crois que à cette antithèse du peuple souverain qui redevient crétin le lendemain des élections, qui est une façon drôle d'écrire en effet un certain dessaisissement des citoyens par les gouvernants, ça s'évite, mais j'opposerai à cela la définition du citoyen d'Aristote, n'est-ce pas ? Non pas quelqu'un qui ne peut ni gouverner ni être gouverné, mais quelqu'un qui peut être aussi bien gouvernant que gouverné. Il faut... la formation du citoyen démocratique, c'est la formation de quelqu'un qui, justement parce qu'il pourrait gouverner, peut être gouverné. Donc positivement et non pas négativement.
Mais je vais le dire autrement, Vincent Descombes. Il y a chez vous, dans les différents livres que vous avez écrit, une sorte de défense du holisme, ou en tout cas de la notion de collectivité. Le holisme, c'est la pensée qui considère qu'il y a quelque chose qui existe à l'échelle collective, que les individus ne constituent pas le tout de la société. Autrement dit, une défense, je vais même employer un terme encore plus précis, une défense de gauche des identités, alors que bien souvent, l'identité est un terme qui est pensé à droite. Est-ce que ce référendum sur le Brexit montrerait qu'il peut y avoir une volonté populaire défendable à gauche, chez un homme comme vous par exemple, de défendre des identités?
Mais je ne me vois pas comme défenseur des identités, je me vois comme un philosophe qui essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle d'identité. Alors vous me dites c'est pensé à droite, mais où est-ce que c'est pensé à gauche? Je trouve que ce n'est pas pensé du tout. Donc il faudrait essayer de le penser. Et alors la bonne voie pour le faire, effectivement, c'est de se prononcer sur un problème qui est hautement philosophique, mais qui est en même temps à la portée de tout le monde. C'est le problème politique aussi. Est-ce qu'il y a juste des individus, auquel cas l'idée de démocratie, c'est une fiction, n'est-ce pas, l'idée que un groupe va décider, c'est une fiction, ou est-ce qu'il existe des sociétés, des collectivités, des communautés, et s'il en existe, qu'est-ce qui leur donne d'être des sociétés? Alors, le holisme, c'est le nom qu'on donne justement à la position selon laquelle une société ne se réduit pas aux individus qui la composent à un instant donné, et elle ne s'y réduit pas parce que les sociétés ont une histoire. Et que donc la société comprend, bah, c'est la thèse d'Auguste Comte, n'est-ce pas ? Il y a plus de morts que de vivants dans une société. C'est ça qui leste, en quelque sorte, chacun des groupes et lui donne alors de quoi se distinguer des autres et de vouloir rester distinct des autres. Est-ce que c'est de gauche ou de droite ? Non, ça c'est, si vous voulez, c'est une thèse de philosophie du social. Ce qui est de gauche ou de droite, c'est d'en tirer des conséquences quant au mode de gouvernement. Du point de vue de gauche, il me semble que si on ne trouve pas la possibilité pour un groupe d'assumer une décision collective, donc d'assumer quelque chose qui est « nous voulons ceci, nous voulons cela », donc d'assumer la volonté générale au sens de Jean-Jacques Rousseau, alors, il faut rejoindre le camp des critiques de la démocratie. Il y a mille choses à critiquer, mais quand bien même il y a des choses critiquables, le problème, c'est qui a le droit de dire « nous » au nom du groupe. Et la démocratie consiste à s'entendre avant de se déchirer sur le fait que le résultat sera celui du groupe entier.
Jacques Rancière, sur la distinction entre la droite et la gauche, sur cette distinction dans la manière justement d'envisager le destin collectif d'un peuple.
Bon, droite et gauche sont vraiment des notions qui sont strictement liées, ou disons, au système électoral. Donc, je ne sais pas si elles peuvent vraiment nous éclairer beaucoup. Moi, je dirais qu'il n'y a pas simplement des individus et des collectivités. Il y a des manières de faire communauté. Ce qui se distingue, effectivement, ce sont des manières de faire communauté. Alors, effectivement, il y a une manière de faire communauté qui consiste à dire, bon, tout le monde vote pour des gens qui les gouvernent, et puis voilà, c'est une manière de faire communauté. Et puis, bon, il y a des manières qui pensent que, bon, la démocratie, c'est quelque chose qui passe aussi par des processus spécifiques, des formes de rassemblement, des formes de contrôle qui sont justement différentes de cette espèce d'incarnation de la collectivité dans un pouvoir central que par ailleurs on pourra déclarer aristocratique ou démocratique, c'est un autre point. Et puis je pense que oui, il y a des questions au fond des manières de faire communauté qui jouent un rôle très très différent à un certain nombre de structures collectives. Bon, par exemple le fait que le travail soit une espèce de structure collective, que ça définisse en quelque sorte des sujets possibles, des intervenants dans le... Bon, bah, ça, c'est une question qui est... C'est quelque chose qui a joué un rôle très important dans un certain nombre de pays européens qui a été au cœur un petit peu, malgré tout, de l'idée de démocratie. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, dans ce qu'on nous propose, par exemple, on nous propose une loi qui, en gros, considère qu'au fond, le travail, c'est une question individuelle, voilà, que chaque individu va pouvoir organiser un petit peu sa carrière. Bon, bah, voilà, là, il y a des enjeux sur des manières différentes de faire communauté, ce qui est quand même paradoxal dans toute l'affaire européenne. C'est quand même une collectivité qui est essentiellement, a pour doctrine et pour pratique, disons, la pulvérisation de toutes ces espèces de structures, de formes de vie collective. Service public, protection sociale, loi sociale. Et je crois que c'est quand même là la contradiction fondamentale. On nous demande de faire collectivité aujourd'hui avec des pouvoirs qui fondamentalement sont des pouvoirs individualisants, parce que l'individualisme de masse, c'est une plaisanterie. Bon, les pouvoirs individualisants, aujourd'hui, c'est les pouvoirs dominants, c'est les pouvoirs financiers et les pouvoirs gouvernementaux.
Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent, vous qui, encore une fois, avez plutôt une vision de la collectivité en tant que telle? Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme ce que Jacques Rancière vient de dire, que le politique a intérêt aujourd'hui à individualiser, à rendre anomique la société, l'anomie étant le processus qui consisterait à briser les liens sociaux qui réunissent les individus au sein d'une communauté?
Mais je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic sur l'esprit anti-lien social de beaucoup des mesures. Alors, c'est pas le politique comme tel qui est en cause ici. Ce sont les traités, c'est l'inspiration globale des différents traités qui ont été signés et qui remettent en cause, oui, le contrat de travail, l'idée de service public, de toutes sortes de choses auxquels, en tout cas en France, les gens sont très attachés. Donc il y a une contradiction insoluble. Mais Mais ces traités, n'est-ce pas, pour moi, la grande leçon du Brexit, c'est que, contrairement à cet événement, nous rappelle que ce qu'on appelait toujours transfert de souveraineté, c'est une délégation. Mm-hmm. Il n'y a pas de transfert de souveraineté. La souveraineté, par définition, ne se transmet pas. Ça peut se déléguer, bien entendu. Et donc, c'est toujours réversible, contrairement à ce qui était suggéré, sinon affirmé, dans bien des discours. On peut revenir dessus.
Non, il y a un effet de cliquet. Dans le cas de l'Union européenne, précisément, les transferts de souveraineté, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est peut-être un des problèmes de cette construction. Elle a été voulue de cette manière. Il y a un effet de cliquet qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible.
Que faites-vous du Brexit, alors ?
Sur les conseils. On peut quitter l'Union. À ce moment-là, on quitte toutes les politiques communes. Mais si on accepte de l'entrée dans cette Union européenne, on accepte aussi ce processus d'intégration progressive qui est un des fondements de l'Union européenne.
Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si on peut se retirer, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu le transfert tel qu'on nous le décrit, à savoir la souveraineté n'est plus chez nous, elle doit être ailleurs. Bon, pas du tout. Il faut que le transfert soit consenti et maintenu pour qu'il ait lieu, avec les effets que vous avez dit. Mais il est possible de récupérer ce qu'on avait transféré. Le transfert n'est pas un don irréversible.
Ça n'est pas un don irréversible. Et d'un autre côté, la souveraineté en démocratie, Jacques Rancière, celle qui semble être de plus en plus contrainte, critiquée, limitée, est-ce que pour vous, il y a une possibilité pour les individus de reprendre cette souveraineté à leur compte ? Il y a un certain nombre d'expériences qui sont faites au niveau local, par exemple de démocratie directe. Est-ce que la multiplication des référendums, parce que c'est aussi une solution qui est bien souvent préconisée, est-ce que tout cela est à même de renforcer ou de rénover l'idée démocratique ?
Bon, je pense que ce qui est à même de renforcer l'idée démocratique, effectivement, c'est l'existence d'un certain nombre de processus un petit peu spécifiques où des groupes, en quelque sorte, se prennent en main, prennent en charge, en quelque sorte, de repenser un petit peu l'ensemble de la politique, de se demander effectivement qu'est-ce que ça veut dire que le commun, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce que c'est que la gestion commune, d'un bien commun, d'une affaire commune. Ça, je pense que c'est quelque chose, qu'on a vu comme un petit peu aussi à travers les mouvements récents, depuis tous les mouvements d'occupation, les mouvements des places, etc. Bon, l'idée en quelque sorte de processus un petit peu spécifique, mais bon, c'est ça qui est le plus important, parce que par ailleurs un référendum, encore une fois, on voit bien que tout dépend du type de question qui est posée, du type d'enjeu. Bon, effectivement, je dirais que si on demande aux gens est-ce qu'il faut autoriser à construire des mosquées, bon, je dirais c'est à mon avis c'est pas vraiment le type de référendum, parce qu'on voit bien que ce à quoi il s'offre, à savoir, dites que vous voulez pas de minaret, dites que vous voulez pas être réveillé le matin, à 5h du matin, et ainsi de suite. Bon, ce qui est quand même pas une question qui peut élargir beaucoup la capacité d'invention et d'imagination populaire.
Et vous, qu'en pensez-vous, Vincent Descombes ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité de redonner, en quelque sorte, un nouveau souffle à cette démocratie qui semble parfois bien mal en point ?
Mais il est incontestable qu'il y a une demande, il y a un désir de la difficulté, c'est que les gens vivent dans un état de dispersion, n'est-ce pas, de sollicitation partout, et c'est très difficile de maintenir comme ça, un peu abstraitement, un mouvement d'interrogation. Mais il y a un moment où les gens supportent mal d'être dépossédés de leur choix. Et c'est ce qu'on observe.